Bienvenue à la première capsule de la pensée réaliste avec Sylvain et Marc.
Comment ça, Sylvain et Marc? Moi, ça sonne mieux à mon oreille, Marc et Sylvain. Tu trouves pas, toi, que c'est plus réaliste?
Non, pas vraiment. Sylvain et Marc, Marc-Sylvain, moi, c'est la première idée. Sylvain et Marc, je trouve que ça passe bien.
Là, ben moi, en tout cas, je trouve que c'est pas réaliste. Je trouve que ça sonne mieux Marc et Sylvain. Là. Pourquoi ça serait Sylvain en premier? T'es-tu plus important que moi?
Non, c'est sûr que Sylvain et Marc, Marc-Sylvain, Marc-Sylvain, il faudrait voir avec la langue française, est-ce que Marc et Sylvain ou Sylvain et Marc... que faire une pause, Sylvain et Marc, ça fait une pause, puis en même temps, ça détache les deux personnes. T'sais. On a comme Sylvain et Marc.
Ben, selon l'alphabet, là, le M est avant le S. C'est pas là, mais Marc et Sylvain, ça sonne mieux, parce que c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, là, c'est l'alphabet.
Ouais, tu sais, l'alphabet, on n'est pas obligé de s'en... Sans, comment je pourrais dire? Chute de merde. C'est pas cool, Marc. Là. OK. Mais mettons que c'est Marc et Sylvain. Mettons que
là, ça a du sens.
Bon, c'est ça. Là, tu gagnes, puis moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, j'ai l'impression d'encore passer en deuxième.
Ah oui, puis qu'est-ce que tu perds d'abord? Pour toi, c'est important d'être premier, plus que... Pourquoi toi, tu serais premier, moi, je serais deuxième?
Sais-tu qu'est-ce qui me dérange dans la pensée réaliste? C'est justement que c'est réaliste, puis qu'on réalise que c'est pas important, ça.
Pas vraiment, non.
C'est juste de déterminer qu'est-ce qui sonne mieux, puis qu'est-ce qui est mieux, puis finalement, Marc et Sylvain... oui, c'est vrai que ça sonne mieux que Sylvain et Marc, puis que j'ai choisi en deuxième le nom, ça m'enlève absolument rien, je pense, c'est ça?
Non, ça enlève rien à notre valeur, parce que, tu sais, ce que moi j'en pense, bon, là, vous avez bien vu que moi, ce que je pense, puis Sylvain, ce qu'il pense, c'est différent. Oui. Fait que si on met notre valeur dans ce que les gens pensent, ben nos attentes deviennent immenses, puis notre vie en souffre, puis nos pensées deviennent irréalistes, puis tu sais, surtout comment qu'on gère toute la situation, ben quand on est plus dans un monde, je crois, plus réaliste, ça devient moins lourd.
Moins lourd, plus réaliste, plus effectivement.
Réaliste. Allô Sylvain, ça va super bien? Bonsoir à tous et à toutes.
Ça va pas pire. Parce que bien puis mal, ça n'existe pas, mais ça, t'essaies d'expliquer ça aux gens, puis à ce qu'ils ont de la misère.
C'est vrai que dans la philosophie, c'est compliqué à expliquer.
Ça, on devrait même pas avoir à l'expliquer.
Dans notre religion, là, la religion catholique dans laquelle on était élevé, ben ça existe vraiment. Là.
Le bien puis le mal?
Ben
oui.
Ça fait partie de la philosophie de.
Moi je reprends. Moi je représente le bien. Et toi?
En tout cas. Sûrement pas le mal, en tout cas j'espère.
Ah, OK. Il va falloir
le
trouver.
Le mal que je connais pas.
Le mal. Ben non, mais de toute façon, si moi je représente le bien, toi tu représentes le mal, nous n'existons pas.
Non, on est rien en fin de compte.
On est rien, nous sommes une poussière dans l'univers.
Une lumière.
Une lumière? Moi, peut-être. Lumière. Une lumière. Une étoile.
Une étoile, oui. On est vraiment minuscule pareil.
Oh, quitte, si on se compare à l'univers, on n'est rien, tu sais. Si on se compare à une fourmi, nous sommes grandioses.
Oui.
Ça fait.
C'est quelque chose pareil quand tu regardes, là. Quand je regardais, des fois, je regarde des petites vidéos là, sur YouTube là, sur l'espace, là, l'astronomie, l'astronomie, c'est ça?
Oui, l'astronomie, oui.
Oui, puis tu vois. C'est de s'imaginer comment tout ça a commencé, que c'est spécial quand même, hein?
Oui, effectivement. Le Big Bang.
On est là, puis on a dépensé. Tu sais, on n'est pas une plante ou un arbre. Là. On est rendu qu'on a dépensé, puis on vient de la d'un processus de création. Là, on s'est mis à penser quand même, puis à réfléchir, puis à avoir de l'amour, avoir de l'empathie.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est toute une évolution, mais comment c'est qu'on évolue de même, hein?
Je sais pas, il y en a qui évoluent moins vite que d'autres parce qu'il y en a qui n'ont pas d'empathie. Puis...
Ah, ben là, ça.
Ouais, qu'est-ce que tu veux?
Chacun sa rapidité de cheminement.
Oui.
Ça va toujours être. Ils veulent pas. Puis des fois, c'est épeurant de vouloir entrer à l'intérieur de soi. Là. C'est même mieux de vivre à l'extérieur. Là. C'est moins compliqué.
C'est moins c'est souffrant.
Douloureux. Parce qu'on pense que c'est moins douloureux, mais...
Ouais, mais la douleur, on se la crée nous-mêmes. S'il n'y a pas de douleur à rentrer en soi-même, c'est juste d'accepter.
Mais c'est de franchir la barrière. Là. De,
ouais.
C'est capable de le faire. Là. Qui... De toute façon, c'est de le voir. On dit toujours, tu sais, quand on dit souvent, quand mettons, tu me dis, quand un aidé vient nous voir ou quoi que ce soit, tu sais, c'est... Mm. C'est le chemin, c'est lui qui le parcourt jusqu'à chez vous, là, qui ouvre la qui sonne, puis qui décide de se lever, puis d'aller le voir.
Mais ça, c'est oui.
Tout le monde qui est capable de sortir, puis de se voir, puis de dire que, oups, il y a quelque chose qui, j'ai comme un, chose qui m'empêche. Je vis des émotions qui sont pas vraiment agréables, qui m'amènent à un endroit que je veux plus.
Oui, oui. Puis de, c'est surtout d'accepter qu'on a besoin des autres. Je pense que ça, je pense que ça, c'est important de savoir qu'on fait partie d'un tout puis qu'on a vraiment besoin des autres pour pouvoir grandir.
Comme on parlait un petit peu hier, on se prend pas mal au sérieux. Hein?
On se prend toujours au sérieux. On est des enfants qui s'ignorent.
Tu sais, des fois, on se rend malade à cause de notre travail. On se prend tellement sérieux à notre travail puis tout ça, là, qu'on se rend malade des fois à pouvoir faire les choses là, à la perfection puis de se mettre...
Se mettre de la pression, s'identifier dans son travail. Beaucoup de gens s'identifient dans leur travail. Et s'ils ne réussissent pas dans le travail ou si le boss n'est pas content, ben ils se sentent diminués. Ils sentent qu'ils sont des moins que rien. Hein.
Ben, c'est la plupart des gens, quand on dit vivre à l'extérieur, c'est un peu ça. Là.
Mm.
Et quand ça commence par vivre pour le travail, comme tu dis, après ça, c'est vivre pour les gens autour. T'sais. C'est avoir la voiture, avoir la belle maison. Quand on reçoit, ben, avoir le meilleur buffet, les meilleurs repas. Le meilleur vin, le meilleur ci, le meilleur ça, pour que les gens nous regardent, pour qu'on se sente regardé puis qu'on se sente valorisé par tout ça. Tu sais, mais dans le fond, c'est ça un petit peu ça, c'est prendre au sérieux. Ça veut pas dire de bullshiter la vie puis de dire que rien qui vaut rien. C'est pas ça l'affaire.
Non, non, pas du tout.
C'est quand ce genre de situation-là fait en sorte que ta vie est toute centrée autour de ça.
Mm.
T'es pas capable de t'asseoir. Quand tu t'assois sur le divan, t'es vide puis tu sais pas où aller puis là, tu pleures puis tu te sens pas.
Mm-hmm.
Et là, que le bas blesse un petit peu là, là-dedans. Là.
Mm-hmm.
Habituellement, on est censé être capable de s'asseoir puis juste s'asseoir, tu sais.
Mm-hmm.
Sans que ça nous amène dans un état de dépression ou quoi que ce soit, de solitude ou. Mais
le vide puis le rien faire, parfois, ça fait du bien. Ça fait
du bien. Mais quand tu n'es pas habitué de le vivre, là.
Mm-hmm.
Je te l'avais expliqué ça quand on avait suivi la formation là, puis que j'avais cassé plein d'affaires, j'avais démolié les choses, le vide là, que je vivais là, hey, ça là, c'est parce que tu sais, t'es comme un enfant là, qui naît là, c'est comme si j'aurais sorti du ventre de ma mère, je me serais mis à pleurer pour me dire mais qu'est-ce que je fais là, c'est que je fais là, j'étais confortable dans mes petites pantoufles dans le ventre de ma mère là, dans le placenta, tout dans toute le cette chaleur là, puis tout je chantais, tu sais. Là, paf, je suis lancé où, là, je me mets à pleurer parce que je sens un vide, là. C'est là que ma reconstruction commence, là. C'est là que ma construction commence, à savoir qu'est-ce que je fais, j'ai besoin des autres, est-ce que les autres vont être là pour moi, et tout commence là. Là.
Oui.
Quand on fait un cheminement puis on démolit des choses, là, beaucoup de pensées, des idées qui ont été biaisées, ben, c'est un petit peu ça qui arrive, hein. C'est comme une renaissance, en tout cas, tout dépendant. C'est pas tous les gens qui font en thérapie qui ont vécu des choses extrêmes, là, des gens qui c'est juste des fois des traumatismes. Là, mais moi, je vois à l'extrême de des c'est des fois qu'il y a des gens qui ont vécu des choses qui ont en fait des films, là, parce que c'est vraiment c'est un drame en soi, la façon qu'on le voit. Là.
Mais toutes les expériences sont bien personnelles, hein, Marc?
Ben, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est ça que je te dis. C'est. Oui, c'est tout personnel. Puis moi, de ce que je me rends compte, là, puis je ne me mettrai pas la tête dans le sable avec ça. Là. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont plus difficiles à passer au travers puis plus difficiles à changer. Puis oui, c'est comme les cicatrices, il y en a qui sont plus grosses. Quand on se blesse, il y a des blessures émotionnelles qui sont des fois. Puis comme tu dis, puis c'est vrai, ça dépend qui les reçoit, là, ces blessures-là. Là.
Mm-hmm. Oui,
ça veut pas dire non plus que c'est à cause qu'on a eu une enfance malheureuse. Là, souvent, des fois, peut-être qu'on décide, nous, d'être un exemple parce qu'on parlait beaucoup de SSPT, là, puis tout ça, les traumatismes, c'est des fois. Que ce soit un militaire ou un policier ou un ambulancier, tu sais, quand tu as eu une éducation qui était personnellement fonctionnelle à la maison, puis que, en tout cas, nous, on dit, on a vécu dans une bulle dorée, puis tout ça, t'sais. Puis on rentre dans ce milieu-là qui est un petit peu plus tough, un petit peu plus dur, là. Mm-hmm. Mais ça devient que quand on vit ces situations-là, puis on les voit, que ce soit quelqu'un qui s'est suicidé, des enfants qui sont maltraités, des femmes qui sont battues, des décès, toutes ces choses-là, des fois, quand on n'est pas préparé à ça, mais on se fait péter notre bulle, tu sais.
Mm-hmm.
Puis quand la bulle la pète, là, des fois, on ne sait pas comment que ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, comment on va prendre ça, où est-ce que ça va nous mener. Puis souvent, ça nous mène vers ça, là, vers les traumatismes, puis des traumatismes intenses, là, puis...
C'est chaque personne va le vivre de façon différente. On l'a vu dans les émissions précédentes, justement, tu parles de SSPT, là. Et chaque personne va le prendre de façon différente. Ça fait partie de sa langue apprise. Puis, tiens, on va parler de force de caractère, mais je suis pas sûr que ça serait vraiment une force de caractère plutôt qu'une compréhension puis un détachement aussi. Tout ça fait partie de la langue apprise.
Vas-y, c'est bon, excuse-moi.
Ce que je veux dire, c'est que dans l'entrevue qu'on avait eue avec une caporale de la GRC.
Avec José Kerry.
Oui, puis elle parlait de son compagnon de travail qui, lui, ouais, passait à travers de ça. Bon, mm-hmm. OK. Est-ce qu'il passe vraiment à travers de ça?
Ben, c'est ça. Non,
de façon sereine ou c'est une carapace qui s'est créée ou il est vraiment capable de se détacher de ces événements-là?
Je crois, moi, qu'il y a des gens qui sont capables de se détacher, sont assez empathiques. Être empathique, c'est ça, hein?
Mm-hmm.
Oui, être capable de se mettre à la place de l'autre, mm-hmm, mais sans vivre la douleur de chaque personne avec qui. Tu sais, c'est important, des gens, surtout les personnes qui sont aidantes dans la vie, hein, que ce soit comme les policiers, ambulanciers, d'être en mesure d'être empathique, puis
mm-hmm,
d'une mesure de vraiment être empathique, de savoir c'est quoi l'empathie, tu sais. C'est pour ça que je demandais souvent à José Kerry s'il y a des choses, des cours qui se donnaient à ce niveau-là, au niveau de la psychologie. Mm-hmm. Parce que c'est beaucoup dans on s'imagine que c'est un monde extérieur, mais quand on vit, ça devient à l'intérieur qu'on le vit, là.
Mm-hmm.
On peut pas s'imaginer, parce que là, ça se passe à l'extérieur de nous tout le temps.
Mm-hmm.
On peut pas s'imaginer des fois que ça peut arriver, hein. Mais quand, ouais, ça rentre, quand on le vit, puis là, oups, ça rentre à l'intérieur, on est-tu prêt, nous autres, à vivre ces choses-là à l'intérieur de nous?
Mm-hmm.
Ou faut-tu attendre de le vivre? On est-tu capable vraiment de s'outiller, avant? Ou... On ne sait pas, hein, c'est pas mal incertain, moi, je crois. Hein.
Bien, ça vient avec l'expérience. T'as beau avoir tous les outils inimaginables, tu vas quand même les interpréter. Puis est-ce que tu vas être capable de les utiliser au moment opportun, ces outils-là aussi?
Mais si, comme je disais tantôt, tu sais, ça dépend si ils ont été préparés. Moi, être préparé, ça veut dire de savoir le pedigree de ton enfance un petit peu, tu sais.
Mm-hmm.
Rencontrer quelqu'un, la personne te parle, puis pour savoir comment... Tu sais, moi, je parle pas juste d'avoir un cours avec un prof en avant, c'est des rencontres avant avec des psychologues pour que les personnes te connaissent. Puis sache, mettons, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai suivi une formation de thérapeute, j'ai pas fait un doctorat ou une maîtrise, quoi que ce soit, en psychologie.
Mm-hmm.
Quelqu'un va commencer à me discuter avec moi. Il y a des fortes probabilités que je commence après deux, trois séances avec moi, que je commence peut-être à si profondément je l'écoute, puis je laisse déverser son bol, puis... Puis j'apprends à le connaître, pas savoir pas ses forces et ses faiblesses, mais ses capacités d'empathie, ses capacités de compréhension, ses capacités de compassion, tu sais. Mm-hmm. À ce moment-là, de se faire une idée, à savoir, ben, je sais pas, là, si t'es tout à fait prête à aller affronter ce genre de situation-là, est-ce que tu sais vraiment, là, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Est-ce que tu te rends compte de qu'est-ce que tu peux vivre? Sais-tu? Mm-hmm. En tout cas, peut-être que ça aiderait à une certaine préparation avant de vivre ces situations-là.
Préparation vraiment sur le terrain, peut-être. Ben, t'sais, peut-être ils vont... aussi,
des stages ou... Je sais pas. Moi, je parle dans le vin aussi un peu parce que je connais même pas trop les cours puis l'enseignement qui se donne à ce niveau-là, puis les préparations, puis toutes ces choses-là. Ben,
José Kerry disait justement, là, puis on en parle parce que je trouve que c'est important de le rappeler, José Kerry, entre autres, donne des formations et des ateliers maintenant.
Maintenant,
effectivement.
Parce que il y a un salut, il y a comme un réveil là, qui s'est fait. Là. Je ne sais pas là, si José est la précurseur de ce réveil-là. En tout cas, ça, on dirait parce que.
Mais je crois que oui, parce que tu sais, dans l'entrevue, on parlait de s'il y avait des outils qui étaient à faire, puis c'était comme non, pas vraiment. Là, c'est après coup. Donc, ils sont réactifs plutôt d'être proactifs puis de se préparer en conséquence. T'sais, ils vont les préparer à utiliser leur arme, à se défendre, d'être sur le terrain pour enquêter. Mais tout le côté psychologique, ça dépasse les gens parce qu'ils sont pas formés pour ça. C'est pas des psychologues, là, c'est des policiers puis c'est des enquêteurs.
T'as beau donner une arme à un policier ou l'armée, quoi que ce soit, il donner un gilet pare-balles, mais si tu l'équipes pas pour l'intérieur, ça peut le détruire autant qu'à recevoir une balle.
Tout à fait. Oui. Oui.
Puis encore... avoir une arme aussi, avoir des outils intérieurs, c'est important aussi, je crois, moi. Parce que c'est un métier qui est dur, là, quand même.
Oui, c'est un métier difficile. Écoute, je les envie pas du tout, là. Puis je les respecte, même si, tu sais, que ce soit les policiers, les premiers répondants ou des enquêteurs, tu sais, les gens voient les policiers de façon négative, mais quand ils en ont besoin, ils sont bien contents qu'ils soient là pour les aider, puis de risquer de prendre une balle pour eux autres, là.
On parle souvent, moi, j'arrive souvent, puis je me dis... on dit souvent de dissocier l'action des personnes. T'sais. L'action d'un policier ne fait pas ce qu'il y a un policier en tant que tel, puis toutes les actions qu'il peut poser dans une journée. C'est certain que, comme tous les autres êtres humains, il y a des actions qui sont posées qui sont répréhensibles. Là, comme moi, je crois qu'ils ne sont pas avantageux pour qui deviennent de l'oppression au lieu d'être de la prévention. Puis c'est de l'humanisme, c'est de l'humain, c'est pas avec le mot policier, là. T'as un policier, mais t'as quelqu'un à l'intérieur du costume de policier, là.
Pas
oublier ça, là. C'est comme un militaire, puis un paramédic, quoi que ce soit. Là. Ils ont un costume, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un à l'intérieur du costume. Ça, c'est qui, cette personne-là? Ben là, en posant des actions, des fois, on apprend à le découvrir, puis des fois, ben souvent, les policiers, ben ils perdent leur emploi, puis... parce qu'ils n'ont pas les capacités à faire face à des situations, puis ils agissent d'une façon qui peut être répréhensible, soit pour la communauté ou pour lui-même, tu sais. Fait que c'est un petit peu...
tout à fait.
Dans ce sens-là que moi, je vois un petit peu... de toute façon, j'ai toujours pensé que tu sois policier, paramédic ou médecin, que tout, c'est un métier aidant avant tout. C'est pas cause. Quand tu as une arme, tu n'es pas un justicier, là. Tu es censé être un aidant. Un policier, c'est un aidant. C'est dans l'optique, tu sais. C'est pour ça que je t'ai dit que quand quelqu'un met un costume, des fois, ça le change, tu sais.
Oui, oui, mais.
À la limite de savoir que tu es un aidant, tu n'es pas un justicier, tu veux aider les gens. C'est, même si tu es un policier, tu es là pour protéger les gens.
Oui, mais excuse-moi, Marc, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a toute l'expérience que ces policiers-là vont avoir sur le terrain. Fait que, tu sais, si le policier a 90 % du temps des expériences négatives où il risque de se faire agresser puis qu'il est dans un environnement difficile, quand il va rencontrer une personne qui est non-violente, OK, ben écoute, il va peut-être déjà être au niveau 9.5, tu comprends, plutôt que de démarrer à 1, puis de se protéger en tant que, de protéger son intégrité physique, là, mais il va peut-être te regarder déjà comme une menace potentielle.
Ben oui, ben on parlait de ça l'autre fois avec Yves, puis on parlait d'accumulation au niveau des camionneurs, mais c'est un petit peu, c'est la même chose avec les policiers. Hein. Que tu dis, c'est ça, hein, si à chaque fois ça s'accumule, les situations négatives, mais c'est sûr que... Mais tu sais, c'est un peu ça aussi, là, tu sais, apprendre aux policiers que l'action que les gens posaient, puis qu'eux rencontrent, ou à qui ils effectuent des arrestations, les actions que ces gens-là ont posées, ça ne définit pas la personne qu'ils sont. Peut-être parce que les policiers ils ont cette philosophie-là, mais peut-être aussi que les actions qu'ils vont poser ne vont pas les affecter autant que ça. Ils vont savoir différencier l'action de chaque personne qui pose. Puis les gens aussi, des gens qui sont des criminels, puis eux, puis des policiers, c'est... Puis moi, je dis ça dans l'optique des aider aussi, les policiers, pas pour des juger, là. Policiers ou militaires, quoi que ce soit. C'est pas dans le but de juger personne. C'est dans le but d'essayer de d'aider à ce que ça les affecte pas, tu sais.
Ben, d'ailleurs, Marc...
C'est moins possible, en tout cas.
Oui, d'ailleurs, il y a des formations qui... Des formations additionnelles qui se donnent au service de police de Montréal, justement, parce qu'il y a eu des formations psychologiques et tout, là. parce qu'il y a eu des interventions auprès de certains itinérants qui avaient des problèmes psychiatriques ouais, assez profonds. Puis il y a eu beaucoup de violence de la part du policier auprès de cette personne-là parce qu'il y avait une incompréhension totale. Eux le considéraient comme une menace puis un violent alors que c'est quelqu'un qui était en problème psychologique profond. Ouais. Donc, il y a des nouvelles formations qui se donnent aux policiers justement pour avoir un peu plus de compréhension puis que leur intervention soit un peu plus humaine, mais encore là, je me répète, dans une certaine compréhension de l'état de la personne, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup d'itinérants, puis j'en rencontre qui se parlent tout seuls à voix haute, là, puis qui cherchent après à Montréal, tu sais, puis tu dis, ils n'ont pas l'aide psychologique ou l'aide psychiatrique, on les garde, par exemple, dans une...
Bon, mais ils ont coupé le budget pour l'aide à ces gens-là. Je sais qu'ici, à l'hôpital à Québec, si on a un grand hôpital, vous je pense, c'est-tu Philippe Pinel à Montréal?
Oui, mais il y a Pinel. Oui, puis...
Pinel, puis nous autres ici, c'est Robert Giffard.
Pinel, c'est le... Il y a Pinel, puis il y a aussi... le nom m'échappe, là, mais...
En tout cas, souvenez-vous, à Québec, c'est Robert Giffard où Alice Roby avait eu, mettons, un moment donné, dans le temps qu'il faisait des lobotomies. Hein, tu sais, Alice Roby a eu une lobotomie. Oui. C'était Robert Giffard. C'était une des premières hôpitaux psychiatriques, je pense, Robert Giffard, ici à Québec. Il y a des gens qui travaillaient là que je connais, puis ils ont perdu leur emploi parce qu'ils ont coupé beaucoup d'argent. Puis les gens qui sont en trouble maintenant psychiatriques, ben, sont un petit peu éparpillés un petit peu partout dans des maisons. Ils sont comme laissés.
Eux-mêmes.
Je ne sais pas si à l'abandon, là, mais en tout cas, ils sont laissés quand même un petit peu eux-mêmes avec des médicaments. Mais ces gens-là, quand ils étaient à Robert Giffard, ils étaient supervisés. Fait que les superviseurs ou les préposés vérifiaient si les usagers prenaient leurs médicaments. Et quand ils sont laissés eux-mêmes à l'extérieur, souvent, ils ne prennent pas les médicaments. Mais comme tu disais, puis c'est ça. Là, après ça, les policiers sont confrontés de plus en plus à ce genre de situation-là avec ces gens-là. Puis, hey, c'est pas évident. Là.
Non, ce qu'on fait, c'est qu'on on délègue la responsabilité aux policiers, justement, puis aux intervenants sur la rue. Il y a des intervenants qui sont des bénévoles aussi dans la rue pour justement aider les itinérants avec des problèmes psychologiques et psychiatriques. Mais au lieu de prendre des professionnels, des psychiatres ou des instituts qui sont spécialisés dans ce genre de traitement puis d'aide, bon, on les prend, on les met dehors, puis on dit, ben, écoute, la police va s'en occuper, puis les intervenants vont s'en occuper, fait qu'on se débarrasse du problème. C'est de mettre beaucoup de responsabilités, justement, à des gens qui n'ont pas cette formation-là. Puis pour eux, c'est de protéger le public. En premier, c'est de protéger le public, puis de se protéger eux-mêmes, leur intégrité physique, first of all. Puis après ça va être de protéger le public. Fait quand tu vois quelqu'un qui est violent ou qui saute une coche, là, je te dis qu'ils vont pas de main morte, là.
J'ai vu un moment donné, je sais pas ça fait combien de temps, un reportage justement sur ça, puis des policiers et des chefs de police qui en parlaient, qui parlaient justement de ces situations-là, puis qui disaient un petit peu ça, qui étaient poussés. Mais comme tu dis, je pense que maintenant, ils ont peut-être changé la donne un peu. Mais ils expliquaient justement, comme toi, tu l'expliques, là, qu'il n'y avait pas les outils pour faire face à ces situations-là. Puis ils étaient comme démunis, ils se sentaient un petit peu démunis face à ça. Puis comme tu dis, eux autres, en premier, c'est le mandat d'un policier, c'est de protéger, c'est de faire régner la paix le plus possible. C'est de protéger le citoyen de lui-même, des autres, et de lui-même en même temps aussi. Eux, c'est pas des psychologues, c'est pas des psychiatres, là, c'est pas des intervenants, c'est pas des travailleurs sociaux, là, c'est des policiers. Mais si on les outille, puis on leur donne des outils, puis on leur permet de faire un petit peu de travail social comme ça, peut-être quand il arrive des situations de même, des intervenants qui sont... qui font juste ça, tu sais, tes appels, tu prends contrôle de la situation, tu essaies de gérer ça, puis tu fais venir l'intervenant, puis après ça, toi, tu t'en vas, puis tu laisses l'intervenant qui est un policier lui avec faire le travail, tu sais, genre de ça.
Mais le service de police, le service policier a beaucoup, beaucoup évolué avec les années, tu sais. Écoute, dans les années 50-60, c'était les gros bras, tu sais.
Ben oui, ben t'allais même pas à l'école, je pense, dans ces années-là, hein. Il n'y avait pas, je pense, de cours, hein.
Non, il n'y avait pas de formation professionnelle.
Il n'y avait pas de formation, puis tout. Ça a vraiment évolué quand même.
Ça va continuer à évoluer pour pouvoir justement les équiper avec des bons outils, tu sais, autre que d'avoir un gilet pare-balles puis un pistolet. Ils vont les équiper de façon psychologique, là, tu sais, avec des outils là, de compréhension. Mais c'est beaucoup demandé à une personne, hein, d'avoir toutes ces compétences-là. Je trouve que c'est beaucoup demandé.
Ah oui, ben oui, je sais. Je sais. Mais en même temps, quand on décide de. C'est délicat, là. On décide d'aller dans ce. C'est pour ça, là. C'est de le savoir tout de suite en partant. Il faut que ça commence au cégep. Là.
Mm-hmm.
Pas que ce soit Nicolet, à l'école de police. Il faut que ce soit vraiment au cégep que ça commence. Là. À savoir si moi, en tant qu'être humain, je me dirige vers mon chemin que vraiment de vie. Là. Parce que moi, mon chemin de vie, c'est ça, c'est d'être policier, d'aider les gens, de voir beaucoup de misère. Puis de, parce que moi, pour moi, c'est ce que je veux. Là.
Marc, on va prendre une petite pause.
La capsule 2 minutes de pensée réaliste. L'univers le permet. Marc, je pense que c'est un des outils parmi les plus utiles dans la pensée réaliste. Pourquoi? Parce que, outre la fameuse bulle dorée qu'on a déjà vue dans une capsule précédente, on parle de l'univers le permet. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi les événements ils me tombent dessus puis tout va mal? Je suis une bonne personne, ça ne devrait pas arriver.
C'est beaucoup irréaliste de croire que les choses, ces choses-là ne peuvent pas nous arriver. Parce que quand on parle d'un univers le permet, c'est que c'est dans le grand livre de tout ce que. On parlait du grand livre des scénarios, mais on peut parler du grand livre de l'univers. Que toutes les choses que l'univers peut permettre de faire. C'est sûr que nous, ici, pour être en mesure de vivre en société, on a eu des lois qui régissent un petit peu notre façon d'agir. Mais en réalité, l'univers peut permettre plein de choses, sauf les choses qui sont vraiment pas possibles, comme être à deux places en même temps ou se stationner en parallèle, en même temps avec deux voitures, toutes ces choses-là. Là. S'acheter en bas d'un building, puis croire qu'on va en survivre. L'univers permet toutes les autres choses, là, voler les autres, ou à la limite de tuer.
Mais est-ce que moralement, puis dans notre société, est-ce que c'est bienvenu? Non. Et c'est pour ça que des lois, les hommes ont créé des lois justement pour éviter le chaos dans la société. Mais de passer sur un stop, pas regarder. L'univers le permet, tu sais. Cependant, si tu te fais attraper par la police, ça risque de te coûter cher. Donc, c'est pas parce que l'univers le permet qu'on peut se le permettre non plus. Tu sais.
C'est vrai, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des lois. Puis les stops, il faut les faire.
À la prochaine.